Europe Soir, le 18-20. Julien Bugier.
Et on est ensemble jusqu'à 20h avec le journal et juste après on ouvre comme chaque soir le Club des Idées. On vous décrypte le monde qui change et on prend le temps de se faire son opinion. Ce soir, nous serons avec un grand monsieur pour un grand entretien au programme. L'ancien ministre et élu de Belfort, Jean-Pierre Chevènement, sera notre invité pour un entretien au long cours. Il publie ses mémoires chez Robert Laffont. Son enfance, ses combats politiques, sa vision de la France, c'est une certaine idée de la République et de l'autorité qu'il nous livre. Il sera en direct à mes côtés à partir de 19h20. Et puis juste avant, ce sera la carte blanche du Club des Idées avec ce soir, comme chaque lundi, l'écrivain Philippe Besson. Il sera avec nous dans un quart d'heure maintenant. Mais d'abord le journal avec vous, Carole Ferry. Il est 19h.
Il y a des mesures qui seront effectivement progressives pour permettre d'éviter la poursuite de l'aggravation de la situation.
La foire de Marseille finalement annulée, pareil pour les journées du patrimoine à Bordeaux.
Dans les deux villes, pas d'événement avec plus de 1000 personnes, 10 maximum dans les parcs, sur les quais ou les plages.
Toutes les restrictions détaillées dans ce journal.
Un huitième mort dans un EHPAD dans l'Aveyron, la direction lance un appel à l'aide aux soignants de toute la France.
Les incendies continuent à ravager l'Ouest américain, Donald Trump est attendu aujourd'hui en Californie.
L'Oregon souffre également désormais d'une pollution de l'air, nous dira Xavier Yvon.
L'œil de Didier François, Alexei Navalny va mieux. Emmanuel Macron dénonce une tentative d'assassinat de l'opposant russe. Quelle preuve apporter à Vladimir Poutine?
Et puis la tendance météo avec vous, Anissa. Le pic de chaleur concerne le nord-est demain.
Oui, c'est là qu'il fera le plus chaud, effectivement. Si vous nous écoutez en Bourgogne-Franche-Comté ou en Alsace, il va faire chaud demain. Un peu plus de nuages à l'ouest, mais dans l'ensemble, le soleil va briller. Je vous donne tous les détails à la fin du journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Cette alerte d'abord lancée par l'Organisation mondiale de la santé qui s'attend à une remontée du nombre de morts en Europe cette année.
Même avec un vaccin, certains signes montrent qu'il pourrait ne pas être efficace sur l'ensemble des populations, précise l'Organisation mondiale de la santé.
En France, de nouvelles restrictions sont annoncées dans les villes touchées par une progression de l'épidémie.
Et c'est le cas à Marseille, par exemple. La vie va devoir changer, mais avec des annonces finalement moins strictes que ce que craignaient les habitants, Nathalie Chevance.
Oui, Marseille échappe à un reconfinement total et même partiel alors que l'épidémie ne cesse pourtant de progresser ici avec un taux d'incidence de 312 pour 100 000 habitants, c'est un record. C'est la raison pour laquelle le préfet de région a pris la décision d'annuler la foire de Marseille qu'il avait pourtant autorisée il y a une semaine. Volte-face qui est un véritable coup dur pour tout un pan de l'économie locale ici. Mais le préfet a décidé d'interdire les rassemblements de plus de 1000 personnes pour limiter la propagation du virus. Sur la voie publique, sur les plages et dans les jardins, pas plus de 10 personnes. Les bars et les restaurants, eux, peuvent rester ouverts jusqu'à minuit et demi. Mais le préfet Christophe Mirmand compte sur le civisme des Marseillais, car ces mesures pourraient être renforcées à tout moment.
Elles permettront de sauver des vies, elles permettront d'épargner un plus grand nombre de personnes de devoir être contaminées. Il y a des mesures qui seront effectivement progressives. L'enjeu, c'est de faire en sorte que ce soit d'abord l'engagement individuel, la discipline collective également, qui permettent de respecter mieux les gestes barrières. Mais naturellement, il y aura aussi des contrôles qui seront mis en œuvre, des contrôles renforcés pour permettre d'éviter la poursuite de l'aggravation de la situation.
Des mesures annoncées après tout un week-end de consultations avec les élus et les représentants du monde économique qui réclamaient justement de la concertation au niveau local. Dialogue salué ce soir par la ville de Marseille.
Merci Nathalie Chevance, la correspondante de Marseille pour Europe 1.
Mesure similaire à Bordeaux avec des rassemblements restreints également et la vente d'alcool interdite à partir de 20h.
Le maire Pierre Urmic reconnaît que ce sont des mesures nécessaires pour lutter contre la propagation du virus.
Nous, on commence par une interdiction de 10 personnes. Moi, je vois ce qui est contraignant pour Bordeaux, c'est par exemple tous les rassemblements tous les soirs sur les quais. 30 ou 40 personnes qui pique-niquent allègrement sur les quais, mais c'est souvent des clusters. Donc maintenant de dire mais vous ne pourrez pas de plus de 10, je pense que ça risque de mettre un terme à ce tir-là. Plutôt que d'interdire les pique-niques sur les quais, je trouve mieux de dire écoutez, pas de rassemblement de plus de 10 personnes sur la voie publique et pas non plus d'alcool. Je pense que c'est une bonne mesure. Déjà, on va mobiliser tous les services de communication de la mairie de Bordeaux. Donc on va communiquer principalement sur ces mesures-là, d'avoir fait de la pédagogie. On va également mobiliser le service du plan canicule qui nous permet de contacter des personnes âgées une à deux fois par jour pour les aider, que ce soit des services médicaux, administratifs, pour vraiment les aider à affronter cette période.
Pierre Urmic au micro de Stéphane Place.
Le bilan est désormais de 8 morts dans l'EHPAD de Sévrac. Le château, c'est en Aveyron.
8 morts dans un même établissement en quelques jours. La directrice, Florence Vajda-Léoni, est dans l'incompréhension la plus totale. Elle lance un appel à toutes les bonnes volontés.
Je lance de nouveau un appel aux soignants de la France entière, puisque nous disposons de logements. Donc les soignants peuvent venir sur l'établissement pour plusieurs semaines de façon à pouvoir nous aider à prendre en soin les résidents. Car pour bien les prendre en soin, il faut les connaître. Et pour les connaître, il faut rester sur l'établissement pendant plusieurs jours. Nous ne comprenons pas en fait comment c'est arrivé. Nous sommes en colère parce que les soignants ont respecté tous les gestes barrières, les mesures ont été prises, elles ont été respectées et malgré tout nous nous trouvons dans cette situation. Nous sommes véritablement l'exemple que malgré les mesures sanitaires qui sont prises, il y a des risques, surtout avec des personnes aussi fragilisées que nos résidents.
La directrice de l'EHPAD de Sévrac-le-Château, Florence Vajda-Léoni, au micro de Benjamin Peter. Valérie Giscard d'Estaing, hospitalisée à l'hôpital Georges Pompidou à Paris. L'information a été donnée par l'entourage de l'ancien président âgé de 94 ans.
Jean Castex, le Premier ministre, qui demande aux entreprises de passer à la vitesse supérieure sur l'activité partielle de longue durée.
Lors d'un déplacement à l'usine BIC en Seine-et-Marne, il a fermement invité les chefs d'entreprise à signer très vite et massivement des accords de réduction de l'activité d'ici le 1er novembre.
L'actualité ce soir à l'étranger, on part aux États-Unis où Donald Trump est attendu en Californie.
En pleine polémique sur le rôle du dérèglement climatique, sur les incendies qui ravagent la Californie, mais aussi les États de Washington et de l'Oregon.
27 personnes tuées rien que cette semaine. Il y a également, semble-t-il, selon les autorités, des dizaines de disparus.
Xavier Yvon, vous êtes notre correspondant aux États-Unis. Vous vous trouvez actuellement dans l'Oregon avec le décalage horaire. Il est en fait 10h du matin pour vous. Et au lever, les habitants ont découvert une nouvelle difficulté, la pollution de l'air.
Ah oui, on peut à peine dire que le soleil s'est levé ici, tellement il est masqué par l'épais brouillard de fumée qui enveloppe toute la région. Et avec cette nouvelle journée, on reçoit les mêmes alertes sanitaires. L'air est extrêmement dangereux à respirer. Au-delà des pires indices de pollution, les autorités demandent à la population de rester au maximum à l'intérieur. Et je peux vous dire que même dedans, on sent cette odeur de brûlé qui envahit tout. C'est évidemment un problème pour les évacués. Ils sont des dizaines de milliers et certains doivent dormir dehors dans des tentes. C'est pour eux que la Croix-Rouge a ouvert un hangar à Salem, où je me trouve.
The facility for respite from the air.
On a ouvert ce lieu pour offrir un répit, pour respirer un air meilleur, explique l'une des responsables. Il y a un endroit pour les familles, les enfants peuvent regarder la télé. Mieux respirer à l'intérieur, c'est un peu le monde à l'envers et c'est surtout un problème avec le Covid-19 toujours très présent. Alors pour éviter les contaminations, il y a tout un protocole sanitaire pour rentrer dans le bâtiment avec prise de température. Pandémie plus incendie, c'est un cocktail explosif, notamment pour les personnes qui ont des problèmes respiratoires. Et les experts préviennent, l'air pourrait rester gravement pollué dans la région encore plusieurs semaines.
Merci Xavier Yvon, vous êtes notre correspondant aux États-Unis.
19h07, dans un instant, l'œil de Didier François. On prendra notamment des nouvelles d'Alexei Navalny. Il va mieux, nous dira Didier.
Et puis l'appel au don du musée du Louvre pour planter cette fois des arbres au jardin des Tuileries.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
Avec la suite du journal, Carole Ferry, 19h09, on part en Allemagne où on va prendre des nouvelles d'Alexei Navalny. Il va mieux.
Oui, pour la première fois, l'opposant russe empoisonné a pu sortir de son lit et faire quelques pas.
C'est l'œil de Didier François ce soir sur l'international. Bonsoir Didier.
Bonsoir.
Alors, Emmanuel Macron a dénoncé aujourd'hui une tentative d'assassinat, des accusations que Vladimir Poutine juge malvenues et non étayées. Le dirigeant russe demande Didier qu'on lui fournisse des preuves.
Oui, alors particulièrement des échantillons biologiques. Vous savez, ces analyses sanguines réalisées par les laboratoires spécialisés de trois pays, l'Allemagne donc, où Alexei Navalny est soigné, mais également la France et la Suède, qui sont les états de référence en matière d'expertise technique pour l'Organisation internationale d'interdiction des armes chimiques, dont on rappelle que la Russie est membre signataire. Or, il se trouve que les trois études réalisées en parallèle de manière indépendante sont toutes parvenues aux mêmes conclusions, à savoir qu'Alexei Navalny avait été empoisonné par un agent neurotoxique d'origine militaire russe, en l'occurrence le Novichok. Il n'y a donc plus le moindre doute sur les origines de cette attaque, qu'Emmanuel Macron qualifie à juste titre de tentative d'assassinat, et Vladimir Poutine le sait parfaitement. En revanche, il pourrait avoir été réellement surpris par les capacités des laboratoires occidentaux à identifier la molécule utilisée, qui est extrêmement virulente, même employée à des doses infinitésimales, et dont les services semblaient penser qu'elle ne serait pas déceler, c'est donc ça qui expliquerait, et l'autorisation donnée à Navalny d'aller se faire soigner en Allemagne, et la volonté du Kremlin d'accéder à ces expertises biologiques afin de pouvoir évaluer notre vrai niveau de compétence.
Par ailleurs, cette affaire ne semble pas avoir dissuadé les opposants à Vladimir Poutine qui ont remporté ce week-end deux victoires électorales dans des scrutins régionaux.
Effectivement, première, deux victoires symboliques en Sibérie et tout particulièrement dans la ville de Omsk où Alexei Navalny a justement été empoisonné à l'issue d'un meeting de campagne où il était venu plaider en faveur d'une nouvelle stratégie d'union de l'opposition qui semble fonctionner. Mais alors attention quand même, le parti de Vladimir Poutine remporte largement la majorité dans toutes les autres circonscriptions avec une moyenne de 25% des voix. On est toutefois loin des 52% raflés en 2015. Et c'est d'ailleurs cette érosion de la majorité avant législative l'année prochaine qui rend le Kremlin aussi crispé dans ses relations avec ses opposants.
Merci Didier. L'œil de Didier François, c'est tous les soirs dans le journal de 19h.
Merci Julien.
Silvio Berlusconi est sorti de l'hôpital à 84 ans. L'ancien chef du gouvernement italien était hospitalisé depuis le 3 septembre à Milan pour une infection pulmonaire liée au coronavirus.
En France, une légère éclaircie sur le front de l'économie.
Selon la Banque de France, l'affaissement devrait être un peu moins violent que prévu avec une baisse du PIB de 8,7% cette année au lieu des 10,3% annoncés en juin.
Oui, une prévision proche de celle de l'INSEE qui prévoit un recul de 9% et plus optimiste que le gouvernement qui avance toujours un recul de 11% sur l'année.
TikTok ne sera finalement pas vendu à Microsoft. La maison mère chinoise a refusé l'offre du géant américain. Quid désormais de l'avenir de la plateforme aux États-Unis.
L'appel aux dons du Louvre qui, comme chaque année, espère rénover ou enrichir ses collections.
Vous vous souvenez peut-être du succès de cet appel au mécénat pour restaurer la victoire de Samothrace. Cette année, le musée voudrait replanter des arbres dans la grande allée du jardin des Tuileries.
L'appel a été lancé il y a tout juste une heure. Objectif 1 million d'euros d'ici le 15 janvier.
Alors à quoi cela va-t-il ressembler? Projection avec la sous-directrice des jardins du Louvre et des Tuileries, Isabelle Glay.
Qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va replanter cette allée pour apporter plus de fraîcheur aux visiteurs, plus de confort. Et surtout, on va réintroduire une espèce qui avait disparu aux Tuileries, l'orme. Nous allons planter 92 arbres. C'est une allée qui est très longue et ça n'impactera pas le champ visuel. On verra toujours l'Arc de Triomphe à son extrémité. Donc c'est vraiment pour retrouver les proportions d'une allée de jardin. Ça sera une promenade plus intime. Il y avait urgence à replanter des arbres dans les Tuileries parce qu'en fait, à l'époque de Catherine de Médicis, la végétation occupait 70% des surfaces. Avec l'élargissement des allées, on arrive aujourd'hui à 40%. Donc l'idée est de retrouver une atmosphère plus fraîche, une plus grande biodiversité et un vrai jardin au cœur de Paris.
Isabelle Glay au micro de Diane Chénouda et vous avez donc jusqu'au 15 janvier si vous avez envie de participer à ce retour des arbres dans le jardin des Tuileries.
Bien, à vos tablettes, un petit don pour le Louvre. Merci Carole Ferry, à demain pour l'info. La météo avec Anissa qui nous a rejoint une nouvelle fois. La vague de chaleur se poursuit demain, Anissa.
Oui, c'est assez simple. La journée de demain va beaucoup ressembler à celle d'aujourd'hui dans quasiment toutes les régions, avec tout de même en début de journée sur la façade atlantique de la Bretagne au Pays Basque quelques nuages en plus demain matin, des entrées maritimes sur la Vendée, des entrées maritimes également sur la pointe du Raz. Mais je vous rassure, ces nuages vont très vite se dissiper. Partout ailleurs, c'est du grand soleil et toujours ce pic de chaleur, vous le disiez, Julien, dont les maximales vont se concentrer demain sur le nord-est. Alors demain matin, nous aurons 11 à 21 degrés. Puis dans l'après-midi, c'est un peu plus frais à l'ouest avec 23 degrés à Brest, 26 à La Rochelle et Perpignan, 27 à Rennes et Biarritz, 29 à Boulogne-sur-Mer. Et vous allez voir que ça grimpe, surtout dans le nord-est. 30 à Bastia, 32 à Nîmes et Saint-Etienne, 33 à Clermont-Ferrand et Vesoul, 34 à Nancy et Mâcon, 35 à Colmar et Paris et 36 la maximale pour Charleville-Mézières.
Comment vous dites ça? La maximale?
La maximale. Alors à 36, ça donne envie quand même de pousser la chansonnette.
Merci Anissa. 19h15, on ouvre maintenant comme chaque soir le Club des idées.
Europe Soir, Julien Bugier.
Je vous demande de vous arrêter.
Je suis très en colère.
Écoutez, vous êtes rapide.
C'est pour ça que vous êtes coupé de la réalité.
Avec d'abord la carte blanche de l'un de nos éditorialistes, un coup de griffe ou un coup de cœur sans détour. Et ce soir, comme désormais chaque lundi, c'est l'écrivain Philippe Besson qui est avec nous. Bonsoir Philippe.
Bonsoir Julien.
Avec vous ce soir, on part aux États-Unis. On est maintenant à 50 jours de l'élection. Et attention, dites-vous, tout peut encore arriver. Joe Biden en est le grand favori, mais vous dites qu'on aurait tort d'enterrer trop vite Donald Trump.
Absolument, Julien. Alors, il est exact que les sondages sont à ce jour sans appel pour le président sortant, puisqu'il est mené de 7 points. Et même dans ce qu'on appelle les États bascules, vous savez, ces fameux États où l'élection se joue, oui, il est également à la traîne de presque 4 points. On pourrait donc facilement considérer que l'affaire est pliée et que les démocrates peuvent déjà sortir les petits fours. D'autant que les mauvaises nouvelles s'accumulent pour Trump. Cette semaine, l'Amérique franchira le sinistre cap des 200 000 morts du Covid. L'économie qui était son grand atout est devenue son talon d'Achille avec ses millions de nouveaux chômeurs. Et les trop nombreuses bavures policières impliquant des Afro-Américains ne font que creuser la fracture raciale et jeter de l'huile sur le feu. Ajoutons à ça que la perspective de la défaite rend le milliardaire très nerveux et accentue les pires aspects de sa personnalité. Il est encore plus menteur, truqueur, vicieux, vulgaire, brutal, raciste que par le passé. Ce qui n'est pas un mince exploit quand on connaît ses performances dans ces matières.
Paradoxe, monsieur Philippe Besson, parce que malgré tout ça, vous prétendez qu'il conserve ses chances.
Il ne manque pas de cartes dans son jeu. En effet, la première d'entre elles, c'est son adversaire. Joe Biden, qu'il surnomme Sleepy Joe, un Joe l'endormi. Il faut reconnaître qu'il n'est pas le plus flamboyant ni le plus sexy des candidats, avec ses 78 ans et sa très longue appartenance à l'établissement de Washington. Les débats risquent d'ailleurs de tourner à son désavantage, car on sait combien le démocrate est un piètre orateur et un piètre contradicteur, tandis que le cogneur Trump raffole de la télé et de ses jeux du cirque. Puis Biden, c'est aussi un serial gaffeur. Il peut sortir une énormité qui endommagerait sa campagne, comme ce fut le cas, souvenez-vous, avec Hillary Clinton en 2016. En stigmatisant ce qu'elle avait appelé les pitoyables, elle avait braqué contre elle les électeurs blancs non diplômés du Midwest qui allaient finalement sceller sa défaite.
Vous pensez aussi, Philippe Besson, que ce qui se joue actuellement contre Trump peut se retourner en sa faveur d'une certaine manière?
Absolument, prenez le Covid. D'une part, le nombre de morts diminue et les Américains ont fini, hélas, par s'habituer à cette litanie lugubre.
Oui.
D'autre part, les nombreux anti-masques donnent de la voix. Ils s'insurgent contre l'atteinte à leur liberté et Trump agite l'espoir d'un vaccin qui surgirait tel une divine surprise à la veille du scrutin. Alors peu importe que ce soit plausible, ce qui compte, c'est que les gens y croient. Par ailleurs, l'économie qui avait plongé se redresse à vitesse grand V. Voyez le taux de chômage, 10,2% en juillet, 8,4% en août et on s'attend à ce qu'il soit meilleur encore en septembre. Enfin, les manifestations antiracistes génèrent régulièrement des troubles et même des émeutes qui exaspèrent l'Américain blanc moyen et la promesse de Trump de rétablir la loi et l'ordre peut faire mouche. Mais surtout, au-delà de ce slogan, la promesse qu'il leur fait de protéger leur mode de vie a une profonde résonance.
Vous dites enfin, Philippe, que la mécanique elle-même de l'élection peut favoriser le président sortant.
Oui, d'abord, on peut compter sur une ingérence étrangère, hein, Poutine voulant à nouveau favoriser son copain Trump. Ensuite, le vote par correspondance peut changer la donne. Aujourd'hui, ce sont les démocrates qui y ont massivement recours. Mais leur bulletin, est-ce qu'ils arriveront à temps alors que les moyens de l'US Postal ont été rognés? De surcroît, leur comptabilisation prendra du temps, de sorte que les premiers résultats pourraient permettre à Trump de proclamer sa victoire et d'affirmer ensuite qu'un retournement serait forcément frauduleux. Et enfin, on le sait, la participation sera décisive. Si l'électorat noir et latino se mobilise et si les jeunes votent en masse, alors évidemment Biden sera favorisé.
Oui.
Mais il arrive souvent qu'une large part, et même un peu plus, de ses électeurs ne transforme pas leur colère en vote.
Bon, ça promet tout ça, Philippe Besson. C'est dans 50 jours, hein.
Ouais, disons que la défaite de Trump, ça reste l'hypothèse la plus probable. Mais elle est loin, loin d'être acquise. En revanche, le chaos post-électoral est une quasi-certitude. Moi, si j'étais le Parti démocrate, je me garderais pour l'instant de commander des petits fours.
Voilà qui est dit. Et je sais que les démocrates nous écoutent massivement à Washington. Oui. Donc le message est passé. Merci Philippe Besson, la carte
Merci
blanche du Club des idées. C'est tous les soirs à 19h15.
Europe 1, Julien Bugier.
Et on poursuit dans quelques secondes avec le grand entretien du Club des idées. Ce soir, Jean-Pierre Chevènement est notre invité. Il publie ses mémoires, denses, passionnantes, et qui font écho à la France d'aujourd'hui. A tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
Avec ce soir à 19h22, un invité exceptionnel dans le Club des idées d'Europe Soir. L'une des grandes figures morales d'une certaine gauche, candidat à la présidentielle en 2002, plusieurs fois ministre, dont l'intérieur en 97. 50 ans d'engagement politique et d'engagement intellectuel qu'il raconte aujourd'hui dans ses mémoires. Près de 500 pages où pour la première fois il se livre et raconte sa vérité. Bonsoir Jean-Pierre Chevènement.
Bonsoir.
Merci de nous accompagner jusqu'à 20h dans le Club des idées. Ses mémoires, elles s'intitulent « Qui veut risquer sa vie ?» La sauvera, c'est aux éditions Robert Laffont. J'ai lu d'ailleurs que c'était une parole de saint Matthieu. Pour le défenseur de la laïcité que vous êtes, c'est une forme de clin d'œil?
Qui veut sauver sa vie la perdra, qui veut risquer sa vie la sauvera. Et c'est une maxime de vie. On n'a pas besoin d'être croyant, mais prendre des risques, s'engager, c'est fondamental pour donner sens à sa vie.
Mmh.
Et il faut que chacun puisse donner un sens à sa vie. C'est ce qui nous permet de vivre et de rebondir.
Je vous pose la question parce qu'on va beaucoup parler de ce qu'il y a dans le livre, de votre parcours, de votre engagement militant, de votre carrière politique d'une certaine manière, de votre enfance aussi, parce que moi j'ai appris plein de choses en lisant ce livre, ces mémoires. Mais je voudrais aussi votre regard sur l'actualité, évidemment. Et comme on parle de laïcité, est-ce que vous diriez aujourd'hui qu'elle est en danger en France, cette laïcité ?
Elle a toujours été un combat, et un combat très difficile. C'était le combat contre l'idée que le politique et le religieux se confondaient. C'était le combat contre le droit divin de l'Ancien Régime, qui se prolongeait tout au long du XIXe siècle dans un courant de pensée éminemment réactionnaire. Donc, se battre pour la laïcité, c'était se battre pour la liberté de penser, c'était se battre contre l'ignorance, c'était la définition de Jean Massé. La laïcité, c'est le combat contre l'ignorance, c'était le combat pour les Lumières. Et je pense que ce combat est toujours actuel. Alors, peut-être que les partisans du droit divin ne sont plus les mêmes, hein, ce sont les islamistes, mais le combat pour la République laïque, il est toujours...
Mais vous diriez qu'il y a un péril islamiste en France aujourd'hui ?
Bah écoutez, je crois qu'il est difficile de le contester. Hein. C'est évident, hein, non seulement à travers les attentats que nous avons déjà subis, mais à travers les modes de vie que certains veulent nous imposer.
Bien. Votre enfance, vous la passez, parce que vous commencez le livre comme ça, vous la passez dans un village du Haut-Doubs. Vos parents sont instituteurs, avec en toile de fond la guerre et la France occupée. D'ailleurs, vous commencez vos mémoires par ces mots. C'est la première phrase. Page 5, c'est la première phrase de vos mémoires. « On ne naît pas impunément en 1939. Ma passion de la France a commencé cette année-là avec la guerre mettant à nu ses faiblesses. » C'est une jolie phrase et on sent le poids qu'a eu le conflit et puis la déportation de votre papa qui était militaire et qui est resté quasiment pendant l'ensemble de la guerre prisonnier.
Jusqu'à 1945,
prisonnier dans un camp.
Élevé par ma mère qui... plutôt que de me confier à de gentilles petites bonnes, m'emmener avec elle à l'école. Donc, j'ai appris très tôt à lire et à écrire, en écoutant simplement ce que ma mère pouvait dire, en s'adressant tantôt aux petits, tantôt aux grands. Donc, voilà, c'est mon parcours de fils d'instituteur laïque.
On sent qu'elle tient une place particulière dans votre cœur et dans votre construction, votre mère. Vous en parlez beaucoup dans ce premier chapitre.
Ah, je suis redevable à ma mère de solides principes hein, et d'un surmoi qui, je le dis, a peut-être un peu écrasé mon moi.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire que je ne me laisse pas aller à courir après mes intérêts personnels. Je me pose toujours la question de ce que je dois faire dans telles circonstances en fonction d'une analyse du monde. Et si vous lisez mon livre avec attention de bout en bout, comme je crois que vous l'avez fait, vous verrez que c'est toujours au nom d'une certaine vision, d'une philosophie, que j'agis comme ministre de l'Éducation, comme ministre de la Défense, pendant la guerre du Golfe, ou bien quand j'entreprends de reconstruire la gauche à partir du congrès d'Épinay, du programme socialiste et du programme commun que François Mitterrand me charge d'élaborer ou de négocier. Donc il y a toujours une grille de lecture, une pensée qui explique l'action.
Si je puis me permettre, et
une cohérence, parce qu'il y a entre chaque chapitre, je dirais, un fil qui court. On peut contester cette cohérence. Je ne dis pas que j'ai raison. Mais en tout cas, la cohérence, elle est là à travers un récit dont je vous assure qu'il est sincère. Je n'ai pas cherché à tirer la couverture à moi. Je n'ai pas fait un livre de propagande, livre de souvenirs.
Si je puis me permettre, en tant qu'observateur, c'est ce qu'on ressent quand on lit votre ouvrage. Alors, on va parler dans un instant de votre construction aussi politique, de votre esprit rebelle qui apparaît en filigrane à travers le livre, que ce soit enfant, mais aussi plus tard quand vous avez été ministre, démissionnaire 3 fois quand même. On en parle juste après la pause et on se retrouve avec Jean-Pierre Chevènement en direct.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
Avec ce soir un invité exceptionnel dans le club des idées d'Europe Soir, il s'agit de Jean-Pierre Chevènement qui publie ses mémoires, 50 ans d'engagement politique, 50 ans d'engagement intellectuel qu'il raconte au travers de ses 500 pages absolument passionnantes. Alors, juste avant la pause, j'évoquais votre esprit rebelle. Vous en parlez dès votre enfance avec un certain nombre d'anecdotes assez croustillantes d'ailleurs. Et plus tard, cet esprit rebelle va faire que vous démissionnez 3 fois, trois fois d'un poste de ministre, ce qui est assez, je crois, inédit dans l'histoire de la Ve République. 83, en raison du tournant de la rigueur. 91, en refusant l'intervention militaire française en Irak. Vous êtes ministre de la Défense. Et en 2000, vous êtes ministre de l'Intérieur. Vous quittez le gouvernement en raison de divergences sur le dossier Corse. Et vous êtes par conséquent le détenteur de cette fameuse phrase prononcée en 83, le jour où vous quittez le gouvernement. Un ministre, ça ferme sa gueule. Si ça veut l'ouvrir, eh bien ça démissionne. Je crois que c'est une phrase que vous avez prononcée en Conseil des ministres. Mais que...
Non, c'est une phrase que j'ai prononcée dans une conférence de presse où après une affaire un peu vive entre François Mitterrand et moi sur les entreprises nationales, pour écarter toute espèce de débat, j'ai coupé court en disant « Écoutez, je ne réponds pas à votre question parce qu'un ministre, hein, ça ferme sa gueule et si ça veut l'ouvrir, ça démissionne. »
En tout cas, c'est resté une phrase célèbre et vous en aviez parlé il y a bien longtemps avec un journaliste qui s'appelait à l'époque, que chacun connaît, Jean-Claude Bourret, c'était sur la 5. Écoutez cet extrait.
Un ministre, ça démissionne ou ça ferme sa gueule, c'est une phrase dont vous vous souvenez, c'est vous qui l'avez prononcée.
Et je l'ai prononcée le jour où j'avais décidé de quitter le gouvernement, en 1983. J'ai toujours eu une certaine conception, je dirais, un certain sens de l'État.
Comment percevez-vous aujourd'hui, Jean-Pierre Chevènement, le fait d'incarner une figure de l'ordre républicain, une figure de l'autorité ?
Je pense que parce qu'il y a quand même une certaine continuité entre mon comportement, ma philosophie, que j'ai pu mettre en œuvre comme ministre de l'Éducation nationale, oui, par exemple en rétablissant l'éducation civique ou en revoyant les programmes scolaires. Disons que j'ai donné un certain angle à notre politique et, comme ministre de l'Intérieur, j'ai conçu la politique de sécurité comme étant le prolongement de ce que j'avais fait comme ministre de l'Éducation. C'est-à-dire que je pense qu'il y a un rapport entre la sécurité et la citoyenneté. La citoyenneté, ça s'apprend, mais malgré tout, comme on peut pas toujours tout apprendre en matière de citoyenneté, mais il faut aussi exercer une juste répression.
Mais comment expliquez-vous aujourd'hui, justement, Jean-Pierre Chevènement, votre regard sur les choses, comment expliquez-vous cette défiance aujourd'hui vis-à-vis de l'autorité, cette perte de repères, le fait que des pompiers soient caillassés, que des policiers soient attaqués
L'explication, c'est ce que Jérôme Fourquet appelle l'archipélisation de la société française, c'est-à-dire son éclatement en îles qui s'éloignent de plus en plus les unes des autres. Je pense que ce sont ces fractures qu'a creusé le néolibéralisme, mais aussi un esprit libéral-libertaire qui refusait le principe d'autorité. Je vous rappelle qu'en mai 68, un des slogans les plus courants, c'était oui. « Il est interdit d'interdire
oui. ».
Ou bien alors c'est le refus des limites.
Vous n'avez pas aimé 68, Jean-Pierre Chevènement. Vous êtes passé.
Je ne l'ai pas rejeté, mais je ne l'ai pas vraiment aimé. Je suis d'une génération un peu antérieure, celle de la guerre d'Algérie.
On le sent bien dans votre livre. Hein. Vous dites les gauchistes. Je passais devant les barricades et je voyais les gauchistes. Voilà, c'est un mot que vous répétez souvent et on sent que vous êtes complètement détaché par rapport à ce qui se passe.
Je me baladais, je regardais.
Vous êtes un homme de gauche. Vous êtes un homme qui a la fibre sociale, mais vous ne comprenez pas ou vous ne voulez pas comprendre le mouvement 68.
Parce que c'était des étudiants qui n'étaient pas vraiment des fils d'ouvriers, hein, c'était quand même des fils de bourgeois. Donc je les regardais avec un certain amusement, mais en même temps, ce n'était pas ce que j'avais conçu pour l'avenir de la France. Je pensais que si la gauche devait venir au pouvoir, c'était par la voie des urnes, en reconstituant un grand parti socialiste. Et c'est à travers le congrès d'Épinay et le programme socialiste que François Mitterrand m'a confié, le programme commun et la suite que nous y sommes parvenus, longtemps après, 1981,
oui.
Donc j'ai milité quand même 16 ans avant.
Oui, vous racontez d'ailleurs très bien cette marche vers le pouvoir, la manière dont vous l'accompagnez et vous aidez François Mitterrand, et puis la sensibilité politique qui est la vôtre, que vous faites émerger dans le programme commun. Encore un mot, monsieur l'ancien ministre de l'Intérieur, sur la sécurité aujourd'hui que connaît la France. On assiste à une bataille sémantique pour nommer les choses. L'ensauvagement de la société. Je vais vous demander si c'est un mot qui vous gêne. Mais d'abord, je voudrais qu'on écoute que vous aviez qualifié à l'époque, non pas d'ensauvagement, mais de sauvageon. C'était en 99 à propos de mineurs multirécidivistes.
C'est certainement mieux à faire, hein, que de tirer par les pieds des spécialistes des sit-ins. Hein, je pense qu'on la demande dans les quartiers chauds, où de jeunes sauvageons brûlent la voiture de leurs voisins.
Voilà, sauvageons, aujourd'hui ça paraît rien, mais à l'époque, ça avait suscité un tollé de la part de vos amis, à gauche notamment, qui disaient, Monsieur Chevènement, vous êtes en train de stigmatiser les jeunes de banlieue.
Mais non, c'était pas du tout ça. Le sauvageon, c'est un arbre non greffé, un vieux mot français, et j'incriminais le défaut d'éducation. C'était une pousse qui n'avait pas de tuteur et qui, au lieu de s'élever à la verticale, eh bien, restait à l'horizontale. C'était le jeune planté devant sa télévision par ses parents qui, à la fin, confondait le virtuel à le réel et pouvait commettre un crime gratuit. Oui. Donc, sauvageon, c'était une manière de pointer le défaut d'éducation. En sauvagement, c'est un peu différent, mais moi, je ne veux pas chercher querelle à Gérald Darmanin de l'emploi de ce mot. C'est un débat sémantique. Il faut laisser à chacun une certaine créativité verbale et ne pas oublier que derrière tout ça, il y a quand même des actes barbares qui se sont multipliés. J'évoque, c'était en 2016, si je me souviens bien, deux policiers qui avaient failli brûler vifs dans leur voiture à Viry-Châtillon. Mmh. C'était monstrueux. Je vois ce contrôleur de bus qui est assassiné parce qu'il demande à des jeunes de porter leur masque. C'est inadmissible.
Donc vous êtes d'accord pour dire qu'il y a d'une certaine manière un ensauvagement de la société ?
Alors ça, c'est un mot que je n'ai pas employé, mais qui ne me choque pas outre mesure. À vrai dire, je pense qu'il y a une augmentation de certaines violences commises contre les personnes, des violences sexuelles, et puis il y a plus d'homicides aujourd'hui qu'hier. Mais en même temps, je pense que le niveau global de délinquance n'a pas tellement augmenté. Si on prend la comptabilisation des crimes et des délits, on voit qu'il y a une certaine stabilité depuis le début des années 80. Mais par contre, certains actes sont plus nombreux et la violence est peut-être plus intense.
Oui.
Et il y a par exemple dans l'attitude à l'égard de la police une violence inadmissible.
Bien.
Parce que le policier, c'est le gardien de la paix.
Oui.
Il faut le respecter. Or, la peur du gendarme, ça n'existe plus.
Alors, dans quelques secondes, juste après la pause, je vous demanderai s'il y a encore, selon vous, un esprit de gauche. Et puis, on parlera de la République, votre définition de la République. À tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
Avec à 19h41 un invité exceptionnel dans le Club des Idées ce soir, Jean-Pierre Chevènement, l'ancien ministre qui publie ses mémoires, qui veut risquer sa vie, la sauvera. C'est aux éditions Robert Laffont. Alors, on évoquait Jean-Pierre Chevènement juste avant la pause, l'esprit de gauche. Y a-t-il encore pour vous un esprit de gauche aujourd'hui? Je vous pose la question parce que c'est vrai que d'abord le personnel aujourd'hui à gauche semble moins capable de mener le Parti Socialiste à une possible victoire. On a vu les dernières élections. Et puis il y a aussi des symboles. Vous savez, la revue Le Débat, par exemple, fondée par Pierre Nora et Marcel Gaucher, qui a cessé il y a 4 jours sa parution, après 40 ans à agiter le débat au sein de la gauche. Y a-t-il encore aujourd'hui, Jean-Pierre Chevènement, un esprit de gauche?
Alors, la disparition du débat, symbole consternant du fait qu'on ne débat plus, on n'argumente plus. Or, la gauche, elle vient de la Révolution française. Elle porte l'esprit des Lumières. Et elle s'applique au XIXe siècle à changer les conditions sociales. C'est ce qu'on appelle le socialisme, qui est fait de courants multiples. La première unification en 1905, Jaurès, le congrès de Tours et la suite. Donc il y avait une gauche fracturée que nous avons voulu réunir pour en faire jaillir une énergie qui a été au rendez-vous. Et je pense que le CRS, le petit think tank que j'ai créé, avait cette originalité.
Petit, mais avec une forte incidence.
Et avec des têtes, avec des gens tout à fait remarquables, les Motchan, les Guidoni, Sarr et beaucoup d'autres.
Et qui est votre héritier aujourd'hui, d'une certaine manière?
J'en ai beaucoup. Il y a des gens pour lesquels j'ai de la sympathie ou de l'affection. J'ai de la sympathie pour Emmanuel Macron, de l'affection pour Arnaud Montebourg. Disons que je ne vais pas faire une énumération, parce que de toute façon, ça n'a rien à voir avec la politique. Ce que beaucoup de gens ne comprennent pas, c'est que la gauche est morte d'une certaine manière.
La gauche est morte.
Provisoirement, elle est morte d'avoir épousé le néolibéralisme. Quand elle a, par exemple, proclamé, au nom de l'acte unique, négocié par Jacques Delors, la libération des capitaux sans harmoniser la fiscalité de l'épargne.
Mais pour vous, ça arrive dès 83, ça, le tournant de la rigueur, pour vous, c'est au moment où vous
démissionnez.
Alors, il faut
tirer le fil, parce qu'après 83, Jacques Delors, en 84, devient président de la Commission européenne. Et avec l'accord de Kohl et de Mme Thatcher, de Lord Cockfield, qui est chargé de rédiger le livre blanc, eh bien, il réalise cette déréglementation à l'échelle de l'Europe que Thatcher et Reagan avaient proclamé dans les pays anglo-saxons. Donc c'est de cela que peu à peu, la gauche est morte. Enfin, en tout cas, elle est tombée à 6% aux dernières élections générales. C'est quand même pas terrible. Et si on veut repartir, c'est sur l'axe républicain.
Et qui peut porter ce nouveau départ, cette nouvelle impulsion de la gauche socialiste ?
Alors moi, je le porterais bien, mais mon âge me l'interdit. Hein. Mais l'idée républicaine, dans toute sa force, sa cohérence, reste aujourd'hui ce qui permet de redresser le pays. Et il faut toujours penser à l'intérêt général du pays. C'est cela la res publica, la République. L'intérêt général servi par des citoyens qui ont appris à penser par eux-mêmes grâce à l'école laïque.
Oui.
Tout cela, c'est un corps de principes que nous devons faire vivre à nouveau.
Et Mélenchon, dans tout ça, Jean-Pierre Chevènement, Jospin, à ce micro, il y a quelques jours, louait son talent, ses intuitions politiques et son sens du verbe. La France insoumise, disait-il, est un mouvement qui compte et que l'ancien Premier ministre regarde avec sympathie et sans effroi. Est-ce que c'est votre cas aussi ?
Tout ça m'a beaucoup amusé parce qu'effectivement, ils ont voté ensemble le traité de Maastricht. Alors depuis, Mélenchon a quand même fait un peu de chemin. Je crois, j'aimerais le croire.
Hein. En sens
et
inverse.
Je l'invite à être plus républicain et à donner moins de place à la démagogie qui est toujours une facilité. Alors que la citoyenneté exige de l'abnégation et que la République, c'est d'abord une école d'ascétisme et de dévouement.
Le président Macron, c'est un bon président parce que vous venez de dire la gauche c'est dévoyée quand elle est partie dans le libéralisme. On accuse souvent le président Macron d'être sur le plan économique plutôt libéral.
Mais Macron a été élu au moment où justement le néolibéralisme était arrivé à extinction. Donc il a été pris un peu à contre-pied par rapport à son programme initial. Vous vous rappelez qu'il attendait de l'Allemagne qu'elle procède à une relance à travers un budget de la zone euro. Ça ne s'est pas fait, mais le Covid est arrivé et aujourd'hui, tout le monde est bien obligé de faire une relance. Il y a une banque centrale qui crée des liquidités et il faut tenir, rendre cette justice au président Macron que sur l'affaire européenne, il a manœuvré finement avec les élections européennes, la désignation de Mme Lagarde à la tête de la banque centrale, de Mme Ursula von der Leyen, qui est une Allemande mais francophile,
oui,
à la tête de la Commission. Donc il a su placer des gens comme Thierry Breton au marché intérieur. Je pense que les Français ne le voient pas concrètement, mais c'est une politique très astucieuse, dont il ne peut d'ailleurs pas trop se vanter pour ne blesser personne.
Monsieur Chevènement, pour terminer, est-ce que vous voulez bien vous prêter à un jeu de questions-réponses spontanées, questions courtes, réponses courtes ? Ce que vous détestez par-dessus tout ?
L'hypocrisie.
Est-ce que vous êtes plutôt François Hollande ou Ségolène Royal ?
Je préfère Ségolène.
Est-ce que l'écologie, pour vous, c'est une nécessité ou on en fait trop ?
Je pense qu'on fait beaucoup de bêtises. Par exemple, la taxation carbone des avions, l'aéronautique est déjà en grande difficulté, ce n'est pas une bonne idée. Hein, ou bien alors les terres rares. Nous avons des terres rares en France, mais nous ne les exploitons pas pour des raisons qui tiennent à une conception dévoyée de l'écologie. Moi, je suis pour la préservation des biens communs de l'humanité, mais je ne suis pas pour le dogmatisme, je ne suis pas pour une écologie tracassière, punitive. Je pense que ça, c'est une erreur.
Est-ce que vous pensez que le Rassemblement national peut un jour diriger la France ?
Je ne crois pas.
Pourquoi ?
Parce qu'il y a un plafond de verre et que, même si Marine Le Pen l'a relevé substantiellement, de 18% score de Jean-Marie Le Pen, qui avait suscité tant de cris d'orfraie le 21 avril 2002, on est passé à 33%, silence complet. Hein. Et je pense qu'aux prochaines élections, elle peut faire mieux encore. Mais je ne pense pas qu'elle ira à la majorité, parce que ce serait mauvais pour la France et que les Français intuitivement le comprennent.
Est-ce que vous avez des regrets dans votre carrière politique ?
Si j'ai des
regrets.
Si j'ai des regrets.
2002, par exemple, quand vous vous présentez.
Non, et mon livre l'explique très bien. Lionel Jospin n'avait qu'à me garder dans son gouvernement, plutôt que de me donner tort sur un sujet où j'avais évidemment raison et où il s'était exprimé dans l'autre sens dans son discours d'investiture. disons que j'ai défendu mes idées. C'est le propre d'un politique de se battre pour ses idées.
Bien, et ma dernière question sera, comme le disait Jacques Chancel, et Dieu dans tout ça?
J'ai eu une enfance à la fois laïque et en même temps chrétienne. Et je suis reconnaissant aussi à cette tradition de m'avoir appris, à travers un effort d'introspection, à discerner les péchés que j'avais commis. Alors, pour répondre à votre question précédente, je n'arrivais pas à en trouver. Hein, il est vrai que j'étais très jeune, je devais avoir 11 ans. C'était à la confession. Et l'aumônier du lycée Victor Hugo me demandait quel péché j'avais pu commettre et je ne trouvais pas. Donc voilà, je plaide non coupable.
Bien, c'est une bonne réponse. Merci beaucoup Jean-Pierre Chevènement d'avoir été ce soir notre invité exceptionnel dans le Club des Idées. Et dans quelques secondes, on va continuer à parler de vous avec Le Jour Où. C'est une séquence, Jean-Pierre Chevènement, où on remonte dans les archives et on a retrouvé les archives qui racontent en quelque sorte que vous avez théorisé eh bien, la démission du gouvernement. On en parlait juste ensemble il y a quelques instants. À tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
19h52, la suite du Club des Idées d'Europe Soir. Et comme chaque soir, on plonge maintenant dans les archives pour éclairer l'actu. 3 minutes pour comprendre, ça s'appelle Le Jour Où.
De faire une grande cantine, peut-être cet hiver, gratos. Voilà.
Bonsoir Théo Manval.
Bonsoir Julien.
On l'a évoqué tout à l'heure, ce soir vous avez plongé dans les archives et vous nous racontez justement le jour où Jean-Pierre Chevènement, on en parlait avec lui, est devenu le théoricien de la démission gouvernementale.
Oui, avec cette fameuse phrase, un ministre ça ferme sa gueule, si ça veut l'ouvrir, ça démissionne. Vous l'avez entendu des dizaines, des centaines de fois depuis le 3 février 1983 où elle a été prononcée après un conseil des ministres, peu avant la démission de Jean-Pierre Chevènement du poste de ministre de la Recherche et de l'Industrie à l'époque, une phrase passée à la postérité et dont pourtant il n'existe aucune archive sonore, aucune trace vidéo, seul le titre d'un article du journal Le Monde paru le lendemain et une justification bien des années plus tard à la télévision.
J'avais décidé de quitter le gouvernement, j'ai toujours eu une certaine conception, je dirais, un certain sens de l'État.
Un sens de l'État qui le pousse à partir quand ce qu'on lui demande n'est plus en cohérence avec ses convictions politiques personnelles. Il est pourtant loin d'être le premier, c'est André Bouloche, ministre socialiste sous De Gaulle, qui fut le premier à claquer la porte sobrement, vous allez l'entendre, du ministère de l'Éducation nationale, Archive Europe numéro 1 du 23 décembre 1959.
Le Conseil des ministres a modifié le projet du gouvernement. Ce projet avait été déposé, je l'avais signé avec le Premier ministre. Les modifications qui sont envisagées ne me permettent pas de maintenir mon accord et par conséquent, je ne vois pas d'autre conclusion à en tirer que de remettre ma démission au Premier ministre.
Quand il le fait en 1983, Jean-Pierre Chevènement est au moins le 40e ministre à démissionner sous la 5e République. Alors pourquoi a-t-il autant fait date? Il y a d'abord évidemment son sens de la formule qui servira à beaucoup d'autres au fil des ans. Voici pêle-mêle Henri Guénaud, Alain Juppé ou encore Bruno Le Maire.
La leçon de Jean-Pierre Chevènement, un ministre ça ferme sa gueule ou ça s'en va.
Un ministre ça ferme sa gueule ou ça démissionne.
Chevènement disait un ministre ça ferme sa gueule ou ça démissionne.
Dans ce cas-là on ferme sa gueule. Je vous le dis comme je le pense, on ferme sa gueule.
Voilà Bruno Le Maire qu'on a entendu en dernier. Le côté choc donc. Et puis si on l'a retenu à ce point, cette phrase, c'est aussi à cause du personnage politique Chevènement et vos trois démissions, monsieur Jean-Pierre.
Avec la même constance. En 1983, pas d'accord avec le plan de relance. En 91, opposition à François Mitterrand sur la guerre du Golfe. En 2000, il désapprouve les concessions faites aux indépendantistes corses. C'est aussi ça qui finit de faire imprimer dans l'opinion cette logique implacable, imprimée au point que certains politiques l'utilisent aussi désormais dans le sens contraire pour justifier leur maintien au gouvernement. Notamment quand leur camp leur reproche d'avaler trop de couleuvres. Exemple avec Cécile Duflot, ministre écolo du logement sous François Hollande. On est en août 2013. Université d'été ELV au micro européen d'Aurélie Herbemont.
Nous sommes en 2013 où la transition écologique est possible si on la veut vraiment. Nous sommes en 2013 et aujourd'hui, une ministre, ça agit, ça ouvre sa gueule et ça ne démissionne pas.
Et si la formule est ressortie à l'envi à chaque claquage de porte, Christiane Taubira en 2016, Nicolas Hulot il y a 2 ans, il faut bien reconnaître que la démission pour conviction personnelle a laissé de plus en plus de place ces dernières décennies à celle sur fond d'affaires, de scandales, de mise en examen. Démission subie cette fois-ci.
Merci Théo pour ce plongeon dans les archives. Et d'ailleurs, à ce sujet, on vous recommande le podcast Europe 1 Studio Démission. C'est présenté par Olivier Duhamel. Cet épisode qui revient en détail sur l'histoire des démissions ministérielles dans la 5e République. C'est savoureux. Merci Théo.
Europe 1, Julien Bugier.
19h56, dans un instant, on part avec Émilie Mazoyer pour du spectacle, de la musique. Émilie qui nous attend dans son studio. On va vous retrouver dans quelques secondes, Émilie. D'abord, le rappel de l'info à 20h. Et quant à nous, on se retrouve demain, même heure, 18h. Et on écoute Le Monde Changer, bien sûr, sur Europe 1. Ciao.